Bonjour Bernadette, merci d'être avec nous à notre studio de la Garde.
Bonjour Olivier, bonjour chers auditeurs. Alors, je suis heureuse de vous retrouver et je vous emmène aujourd'hui en Slovaquie faire mémoire du bienheureux Titus Zeman, martyr du communisme et martyr pour les vocations. Alors, ce bienheureux Titus Zeman est né le 4 janvier 1915 au nord de Bratislava, dans une petite ville agricole, Vajnori, qui depuis est un quartier de la capitale. Ses parents sont de modestes fermiers, leur richesse, ce sont leurs 10 enfants et leur foi chrétienne, toute simple mais vraie, dans laquelle ils éduquent leur tribu. Le père aide la paroisse en étant sacristain et toute la famille, comme la plupart des Slovaques d'ailleurs, a une profonde dévotion à Marie, à Notre-Dame des Douleurs, particulièrement vénérée au sanctuaire national de Sastine, à 50 km de là. Or, Titus est l'aîné de la famille et à l'âge de 10 ans, lui aussi manifeste le désir de partir en pèlerinage à Notre-Dame de Sastine. Mais depuis tout bébé, c'est un garçon qui a de gros problèmes de santé et cette année-là, il est encore malade. Alors, le cœur gros, il doit renoncer à ce pèlerinage. Les pèlerins promettent de prier pour lui, mais lui aussi, dans le secret de son cœur, et puis à l'insu de ses parents, se confie à la Vierge Marie en lui disant que si elle le guérissait, il serait son fils pour toujours. Et c'est ce qui se produit. Il guérit soudainement et définitivement par l'intercession de Marie. Alors, fidèle à sa promesse, il annonce à ses parents qu'il veut être prêtre salésien. Alors pourquoi salésien ? Bien parce que c'est la congrégation qui est établie au sanctuaire de Sastine depuis un an, que c'est la Vierge Marie de Sastine qui l'a guéri, que les salésiens habitent la maison de Marie. C'est donc là qu'il veut être prêtre. Pendant 2 ans, Titus va se heurter à l'opposition de ses parents. Il n'a que 10 ans, il est très jeune et ils sont trop pauvres pour payer ses études. Mais ce à quoi Titus leur répond que s'il était mort, il trouverait bien l'argent pour ses funérailles, il vendrait peut-être un champ, alors il les supplie de faire la même chose pour payer ses études. De leur côté, les parents de Titus vont trouver le père Bocor, qui est le supérieur de l'Institut salésien de Sastine, et lui demande de raisonner leur fils, voire même de le décourager. Mais c'est peine perdue. Le père Bocor a beau mettre Titus à l'épreuve, en lui disant qu'il sera loin des siens, que la vie va lui paraître austère à l'Institut, qu'il va devoir se laver à l'eau froide, que lorsqu'il aura mal quelque part, sa maman ne sera pas là. Rien n'y fait. Titus a réponse à tout. Pourquoi me dites-vous que ma mère ne sera pas là ? Oui, bien sûr, ma mère terrestre ne sera pas là, mais Marie auxiliatrice sera là et prendra soin de moi. Je ne pleurerai pas, car ma mère du ciel restera toujours avec moi. Alors, face à cette réponse, le père Bocor s'incline et déclare aux parents de Titus que ni lui ni personne ne le feront changer d'avis et que cet appel, Titus l'a bien reçu d'en haut et qu'il serait vain de lutter contre la volonté de Dieu. Et voilà donc comment Titus va prendre le chemin qui va le mener au sacerdoce. Alors, il débute son noviciat en Slovaquie, puis il est envoyé à Rome, à l'université pontificale grégorienne, pour étudier la théologie, enfin qu'il commence à Rome et qu'il continue ensuite à Chieri, près de Turin. Et le 23 juin 1940, il a 25 ans et est ordonné prêtre à la basilique du Sacré-Cœur de Turin. Après son ordination, il quitte l'Italie, rentre en Slovaquie parce que c'est la guerre, et il est nommé aumônier auprès des jeunes de l'oratoire salésien de Bratislava et doit aussi assurer un petit service à l'église paroissiale. Tout ceci dure très peu parce que sur les conseils du père Bocor, le provincial salésien, il reprend des études de chimie et de sciences nates en vue d'enseigner ces matières au lycée épiscopal de Trnava. Or, selon les témoignages d'anciens élèves, le père Titus est un professeur respecté, aimé. Son sourire invite à la rencontre. Il est toujours joyeux. C'est aussi un bon sportif, doué pour le volley et encore plus pour le ping-pong. C'est quelqu'un de délicat, de dévoué, toujours prêt à aider. Il va même cacher un juif pendant la guerre. Mais il sait aussi être exigeant et ferme quand c'est nécessaire. C'est aussi un homme de paix, mais toujours en mouvement, qui arpente les couloirs où les élèves le voient sans cesse ou prier ou étudier. Après la guerre, en 1946, avec l'arrivée des communistes en Tchécoslovaquie, les premières mesures contre l'Église voient le jour. Et les premiers touchés, ce sont les lycées qui sont nationalisés. Et le lycée où enseigne le père Titus, enfin dans le lycée où enseigne le père Titus, le nouveau directeur qui est athée ordonne d'enlever les crucifix des classes. Évidemment, le père Titus, ça ne lui plaît pas. Et une nuit, avec deux autres professeurs, il replace tous les crucifix sur les murs. Un, par amour pour le Christ, et aussi par souci de justice, puisque la Constitution, à ce moment-là encore, garantit formellement la liberté religieuse et son entière expression. Résultat, le père Titus est renvoyé du lycée. Les années passent, la persécution contre l'Église s'intensifie, pour déboucher, dans la nuit du 13 au 14 avril 1950, sur une vaste purge. Le régime soviétique, communiste et athée, frappe cette fois toutes les congrégations masculines. Les couvents sont pris d'assaut, les religieux sont chassés, chargés dans des camions, déportés vers des camps de concentration, tous leurs biens sont confisqués et les couvents sont occupés, bien sûr, par les hommes du régime. En Slovaquie, on a appelé cette nuit la nuit des barbares, tellement elle a été sombre. Le régime voulait par là, par cette opération, faire taire toutes les congrégations qui étaient considérées comme des instruments du Vatican, puissance étrangère. Cette nuit-là, providentiellement, le père Titus échappe aux arrestations, car il avait été envoyé dans un petit village à côté, à Saint-Vicé, à la paroisse de Saint-Vicé, un petit village à côté de Bratislava. Mais ces événements tragiques le marquent profondément et il veut faire quelque chose suite à ces persécutions pour protéger les futurs prêtres, tous ces jeunes séminaristes qui étaient en train d'étudier. Il ne veut pas qu'ils soient pris dans le programme de rééducation des soviétiques. Alors, il accepte la mission non seulement de faire passer clandestinement la frontière entre la Slovaquie et l'Autriche à de jeunes séminaristes, mais en même temps de les accompagner jusqu'à Turin, où se trouve la maison mère des Salésiens. Et là, ils pourront continuer leurs études tranquillement et accéder au ministère sacerdotal. Une mission risquée, hein, mais qu'il prépare avec soin. Et le 31 août 1950, le père Titus, plus un prêtre diocésain et six jeunes séminaristes, entreprennent ce chemin vers la liberté. Chemin qui commence par une marche à pied en forêt où le groupe retrouve deux guides. Ils doivent passer ensuite sur l'autre rive de la rivière Morava, qui est un affluent droit du Danube, pour arriver en Autriche, qui est encore sous le contrôle de l'armée soviétique, donc le danger n'est pas encore écarté. S'ensuit encore une bonne heure de route avant d'atteindre une station de chemin de fer. Et finalement, ce ne sera que le 15 septembre qu'ils arriveront, après deux semaines de voyage, à Turin, où le groupe est accueilli avec une grande joie et la bénédiction du recteur majeur des Salésiens. Quelque temps après, Titus reprend la route en sens inverse pour entrer en Slovaquie. La deuxième évasion a lieu en octobre, avec cette fois 28 religieux. Et c'est encore une réussite, bien que le retour en Slovaquie a failli être fatal au père Titus et à son guide. Ils ont été découverts, mais ont réussi à s'échapper. L'étau se resserre donc autour du père, qui décide pourtant d'organiser un troisième passage. Seulement, à trois reprises, les plans ont dû être changés à cause d'incidents divers, des guides qui ont été arrêtés, qui n'ont pas été relâchés, les départs sont reportés. Et tout d'un coup, le père Titus se met à douter. Et si son projet ne venait pas du ciel? Si tout ce qu'il avait entrepris jusque-là n'était que pour satisfaire un orgueil tout personnel, comme certains le pensaient ou même le disaient? Et si il tombait dans les mains ennemies? Il a peur, il est fatigué, il est pris de doute. Et il se dit, et si ce doute même était une tentation du démon pour me faire renoncer? Bref, il traverse sa nuit obscure et il demande conseil à un ami auquel il écrit. Et quelques jours plus tard, il réécrit à cet ami pour lui dire qu'il a reçu sa réponse dans les lectures proclamées pendant la messe du jour. La première lecture, c'était la première épître de saint Jean. Il entend ces paroles. « À ceci, nous avons connu l'amour. Celui-là a donné sa vie pour nous et nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. » Dans l'évangile du jour aussi, qui était l'évangile de Matthieu au chapitre 10, il entend « Ne craignez pas ce qui tue le corps. Vous valez mieux qu'une multitude de passereaux. Même les cheveux de votre tête sont comptés. » Alors ces paroles le font dépasser sa peur. Il est sûr maintenant, il est prêt désormais à poursuivre sa mission. Et dans la nuit du 8 avril 51, il entreprend le troisième passage clandestin, un voyage qui s'avère épuisant. Il se fait dans des conditions encore plus difficiles, un orage éclate pendant la nuit, transforme le chemin en coulée de boue, les prêtres les plus âgés n'arrivent pas à suivre le rythme, le groupe prend 3 heures de retard, le jour commence à se lever, la rivière Morava est en crue, et malgré l'insistance du père Titus, ses encouragements, la peur commence à s'emparer de certains, si bien que dans le groupe, c'est un peu le désordre. Et finalement, ils se mettent à débattre de savoir ce qu'ils doivent faire. Et finalement, ils décident de rebrousser chemin. Seulement, ils ont été repérés. Le père Titus réussit malgré tout à faire fuir 4 jeunes séminaristes, mais lui et 15 autres salésiens sont arrêtés. Alors va commencer pour lui un vrai chemin de croix, à la fois physique et psychologique. On l'accuse d'espionnage, de haute trahison. On veut le condamner à mort, mais comme il ne faut surtout pas faire de martyr, ça serait mauvais pour les soviétiques, il est condamné à la prison à vie. Puis sa peine est commuée à 25 ans de détention, et de travaux forcés. Il subit toutes sortes de tortures inimaginables, que ce soit au cours des interrogatoires ou de sa détention. Il est frappé avec tout ce qui tombe sous la main de ses bourreaux. Il reçoit des coups de pied si forts qu'il en perd l'audition pendant plusieurs heures. Bref, en prison, il confectionne un chapelet particulier, fait de 58 grains, 58 miettes de pain qu'il a enfilées sur un fil qui correspondent à ses séances de torture. Il est humilié, traité de façon plus que bestiale, puisque ses tortionnaires n'hésitent pas à plonger et maintenir sa tête dans un seau rempli d'excréments jusqu'à ce qu'il commence à étouffer. Lui reste ferme dans sa foi. Il endure tout. Par amour et avec amour. Il supporte tout car il vit ses souffrances en union avec le Christ, persécuté, flagellé, lecce homo, les offrant comme lui par amour. On l'envoie dans les prisons les plus dures. Il va connaître aussi de terribles camps de concentration, dont celui de Yakhimov, si je prononce bien, la tour de la mort, où il est contraint de broyer de l'uranium radioactif à la main, sans protection. Il va passer aussi de longues périodes en isolement, avec une ration alimentaire 6 fois inférieure à celle des autres prisonniers. Il est devenu ce qu'ils appellent un mucle. Ce sont 4 initiales pour désigner un homme destiné à la liquidation. Alors, les privations, les exactions, le froid, les intenses irradiations, tout cela a miné sa santé. Il est méconnaissable et commence à souffrir de graves malaises cardiaques, pulmonaires, neurologiques. Si bien que, le 10 mars 64, le régime, après 13 ans de captivité, le remet en liberté conditionnelle. Sous contrôle policier permanent, bien sûr, avec interdiction formelle d'exercer son ministère, ce qui lui cause encore de nouvelles souffrances. Il vit à ce moment-là avec son frère comme ouvrier dans un magasin qui produit des textiles, et ce jusqu'à la fin de ses jours. Pourtant, en 68, lors du printemps de Prague, un bref moment de détente du régime, il est autorisé à reprendre son ministère. Ça va être de courte durée, puisque le 8 janvier 69, Titus, le père Titus, meurt des suites de sa longue persécution. Voilà, chers auditeurs, un aperçu de la vie de celui qui a donné sa vie pour répondre à une mission spéciale courageuse, sauver les jeunes vocations, garder et défendre la foi de jeunes en un temps de persécution. Alors comment? Eh bien, en s'opposant au programme de rééducation, d'embrigadement des communistes et à toute leur idéologie. Même si je perdais la vie, avait déclaré Titus Zeman, je ne considérerai pas cela comme du gâchis, sachant qu'au moins l'un de ceux que j'ai aidés est devenu prêtre à ma place. Le 11 janvier 69, jour de ses funérailles, des dizaines de prêtres défient le régime et, malgré son interdiction, concélèbrent la cérémonie à laquelle assistent également quelques jeunes qu'il avait aidés à devenir prêtres. Mêlés à la foule, il y a même des espions du régime qui ont reconnu, dans des procès-verbaux réservés, que Titus avait vraiment été un martyr. Alors, ce qui est toujours magnifique dans ces histoires terribles, c'est que dans les années qui ont suivi la mort de Titus, de nombreuses vocations sacerdotales, plus de 100, sont nées dans les groupes de prière qui avaient été maintenus secrets près de Bratislava. Autre fruit extraordinaire, le juge Pavol Corbuli, qui était responsable de la condamnation de Titus, s'est converti plus tard au christianisme. Il a demandé pardon à genoux pour avoir condamné une vingtaine de Salésiens innocents. Et puis le directeur communiste qu'il avait licencié en 1946, au moment de l'affaire des crucifix dans le lycée, eh bien lui aussi s'est également converti, ainsi que d'autres personnes que le père avait rencontrées pendant ses années en prison. En 1991, après la chute du mur de Berlin, Titus fut officiellement innocenté. Le 27 février 2017, le pape François a autorisé la publication d'un décret reconnaissant son martyr, et le 30 septembre 2017, il a été béatifié. Voilà, chers auditeurs, pour ce qui est de ce martyr pour les vocations et le salut des vocations. Un martyr qui nous interpelle tous aujourd'hui. Sommes-nous prêts, et dans quelle mesure, nous, à suivre dans nos vies le Christ et l'Évangile? Point d'interrogation. Alors, terminons par la prière pour les martyrs. Seigneur, partout dans le monde, les chrétiens sont menacés, persécutés. Signe de contradiction en raison de leur foi, ils meurent pour toi qui es l'amour. Nous te prions pour eux, accueille-les auprès de toi. Nous te confions aussi leurs persécuteurs. Que le sacrifice de tes martyrs, Seigneur, produise beaucoup de conversions dans ton Église et dans le monde. Vierge Marie, Reine des martyrs, invoque pour nous l'esprit de force, qu'il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté et la tiédeur, qu'il renouvelle notre foi et notre amour, afin que nous puissions témoigner en toutes circonstances et jusqu'au bout que Jésus-Christ est Seigneur. Amen.
Chers auditeurs, c'était notre émission Martyr d'aujourd'hui avec Bernadette. Elle nous parlait de Titus Zeman. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.